Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous commençons une série spéciale sur le VIH et le sida. Et nous nous consacrerons à une réflexion profonde sur ce problème majeur.
Nous aurons aussi l'occasion d'entendre plusieurs intervenants engagés dans le soutien aux personnes atteintes du VIH ou du sida. Nous verrons ce que nous pouvons apprendre de leur expérience et de leur compassion envers ceux qui sont touchés par cette maladie. Il faut dire toutefois que les interviews originaux avec ces participants étaient en anglais. Leurs interventions ont été traduites et leurs propos redits par des francophones.
Nous découvrirons les effets du VIH et du sida, comment la maladie se manifeste, comment elle est transmise et quels traitements peuvent éventuellement aider. Désormais, évoqué comme une pandémie, le sida affecte surtout les régions les plus pauvres de la planète. Il soulève des interrogations spirituelles, mais représente à la fois une opportunité de parler de l'Évangile.
Cette pandémie appelle l'Église à un engagement actif à travers des démonstrations pratiques de l'amour de Dieu dans les domaines spécifiques, comme le soutien aux orphelins par exemple, ou à ceux qui souffrent et meurent à cause des maladies liées au VIH. Cela peut également impliquer une participation au travail de prévention parmi les groupes les plus vulnérables, ou d'accueillir et encadrer ceux que la société méprise à cause du sida.
Notre objectif est d'être à la fois biblique et pratique. Alors, qu'en est-il de la situation actuelle?
Selon les chiffres datant de 2014, à l'échelle du monde entier, environ 3300 personnes meurent du sida chaque jour. Cela représente l'équivalent d'une quinzaine de grands avions qui s'écrasent chaque jour, ou encore de 1,2 million de gens qui meurent chaque année.
Sur les 35 millions de personnes qui vivent désormais avec le sida, plus de la moitié vit en Afrique subsaharienne.
Nous avons eu l'occasion de parler au docteur Liesling de Itemba, une association caritative chrétienne qui soutient la lutte contre le VIH et le sida.
En Afrique du Sud, aux alentours de l'année 2006, la prévalence nationale du VIH dans la tranche d'âge des 15-49 ans tournait autour de 24%, mais dans certaines communautés, elle était bien plus élevée. Dans certaines régions de banlieue qui entourent les villes principales d'Afrique du Sud, ce taux peut atteindre 45%, ce qui représente presque un jeune adulte sur deux qui est séropositif et qui donc risque de mourir dans les 10 années qui suivent s'il n'obtient pas de traitement.
Et quel impact cela a-t-il sur ces individus, ainsi que sur leur famille et sur leur communauté?
La plupart des gens contractent le VIH à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine, ce qui signifie que sans médicaments ou traitement contre le sida, il y a de fortes chances pour qu'ils meurent à la fin de leur vingtaine ou au début de leur trentaine. Ce sont donc les parents de jeunes enfants qui meurent et ceux qui apportent à la famille le salaire nécessaire pour manger. Cela signifie que les familles déjà appauvries deviennent encore plus pauvres. Les enfants sont livrés à eux-mêmes sans soutien et sans structure familiale pour les encadrer.
Colin Smith, qui travaille avec des pasteurs dans des bidonvilles de Nairobi, au Kenya, nous fait part d'une situation similaire.
Les familles passent par des deuils profonds et répétés. On entend des gens dire par exemple « Avant, nous étions 6 à la maison, mais 3 ou 4 membres de ma famille sont morts ». On constate aussi les conséquences économiques de la maladie. Les familles sont appauvries par les effets du VIH et du sida parce que la personne qui gagne le salaire principal devient incapable de subvenir aux besoins de la famille. De plus, elle commence à dépenser de l'argent pour les médicaments. Les conséquences négatives du sida sont vraiment évidentes et lourdes.
Le VIH et le sida aggravent les difficultés déjà existantes et nous confrontent simultanément à de nombreux problèmes.
Comme nous l'avons appris tout à l'heure, ceux qui seraient les plus aptes à contribuer à l'économie sont ceux qui sont les plus sévèrement affectés par la VIH. En l'an 2006, la tranche d'âge des 20 à 49 ans à elle seule représentait 60% des morts du sida. Dans les pays touchés, l'espérance de vie est de 12 à 17 ans plus basse que ce qu'elle devrait être. Alors on peut dire que le sida décime ceux qui auraient été les plus capables de gérer cette crise.
On le ressent particulièrement dans le secteur de la santé, où selon Liesling, il n'y a pas assez de personnel pour administrer des médicaments antirétroviraux, même quand ils sont disponibles.
Je pense à l'Afrique du Sud, où une grande partie des personnes qui meurent du sida ou en sont malades font partie du secteur de la santé. Le taux de mortalité des infirmières, des docteurs ou des personnes travaillant dans l'administration est plus élevé que le nombre de personnes qui sont formées pour entrer dans ce secteur. Et donc la part de personnel médical est en train de diminuer. C'est très difficile d'introduire un nouveau programme de traitement, car il n'y a ni le personnel compétent, ni les ressources.
Derrière ces chiffres troublants, il y a des individus qui souffrent sur les plans physiques, émotionnels et spirituels. Ils peuvent être rejetés par leurs amis ou leur famille. Ils sont vulnérables, sans défense, et peuvent être exploités. Ceci est surtout une réalité pour les orphelins, qui, dans bien des cas, doivent s'occuper de leurs jeunes frères et sœurs. Liesling nous décrit quelques situations qu'elle a rencontrées. Pour ces jeunes, le manque d'argent amène toutes sortes de complications.
Je ne peux pas payer mon professeur pour qu'il signe mon bulletin scolaire. Je suis dans la même classe depuis 2 ans. Ce professeur voulait que cet orphelin lui paye des pots de vin pour le faire passer au niveau supérieur. Et puis, il y a aussi les témoignages du genre. Mon voisin m'a demandé de travailler pour lui. Il a dit qu'il me paierait à la fin de la journée. Je suis allée le voir et je lui ai demandé mon argent. Mais il a répondu « Non, va-t'en, tu n'es qu'un orphelin ». Un autre jeune homme a expliqué qu'un homme plus âgé de son village lui avait demandé de coucher avec sa sœur de 2 ans en échange d'argent. Il n'avait pas d'argent et il voulait pouvoir nourrir ses jeunes frères et sœurs. Que devait-il donc faire? Vous penseriez peut-être que la communauté où vivent ces orphelins aurait compassion d'eux, mais en réalité, elle les exploite et profite de leur situation. C'est pour cette raison que Dieu nous demande de prendre soin des veuves et des orphelins.
Dans Jacques, chapitre 1, verset 27, nous lisons « La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. »
La vulnérabilité des enfants orphelins à cause du sida est décrite par Suzy Howe, directrice de la Bethany Children's Trust, une organisation qui aide les églises à prendre soin des personnes qui vivent avec le sida.
Ces enfants orphelins doivent quitter l'enfance pour assumer les responsabilités de l'âge adulte qui vont souvent bien au-delà de leurs capacités physiques et mentales. On voit par exemple une fillette ou un garçon de 8 ans s'occuper des champs, aller puiser de l'eau, aller ramasser du bois et nourrir les enfants. Ils deviennent des proies pour les gens sans scrupules au sein des villages. Parfois, ces enfants subissent des abus sexuels. Dans d'autres cas, ils sortent de leur plein gré pour se vendre parce que c'est le seul moyen de mettre un peu de nourriture sur la table.
Et comme nous l'avons appris tout à l'heure, les orphelins ont du mal à faire des progrès dans leur éducation.
Ils sont en danger car souvent ils doivent abandonner l'école et ils n'ont donc plus accès à l'éducation. Ils sont alors pris au piège dans un cercle vicieux de pauvreté, alors que s'ils savaient lire et écrire, les gens ne pourraient pas profiter d'eux.
Sans l'encadrement des parents, les enfants n'apprennent pas certaines valeurs.
Qui leur apprendra à discerner le bien du mal? Et supposant qu'ils continuent de grandir dans ce contexte, ils deviendront des adultes sauvages. Ce n'est pas étonnant que les gens commettent des crimes simplement pour survivre. Je ne dis pas que tous les enfants orphelins sont des criminels, pas du tout, mais simplement qu'il y aura des conséquences si nous ne nous occupons pas d'eux.
Suzy Howe continue en expliquant que ces orphelins peuvent subir d'autres conséquences traumatisantes.
Certains recommencent à mouiller leur lit, et je parle d'enfants de 10, 11 ou 12 ans. Voilà un signe qui montre qu'ils sont profondément perturbés. Très souvent, ce n'est pas uniquement la mère ou le père qui décède. Laissez-moi vous raconter l'histoire de deux petits garçons. Le père fut le premier à mourir du sida, puis la mère le suivit. Ensuite, ce fut au tour du grand-père et plus tard de la grand-mère. Les deux petits garçons ont alors été envoyés chez leur tante et leur oncle, mais la tante est décédée, suivie de près par l'oncle. Alors, les deux petits ont été envoyés chez une autre tante et un autre oncle. Pouvez-vous imaginer ce qu'ont dû vivre ces enfants ? De multiples décès et de deuils, le passage de maison en maison comme des sacs de course, le besoin constant de réadaptation. Ces petits garçons ont eu de profonds traumatismes émotionnels.
Nous reviendrons sur le sujet des orphelins et les bons moyens de s'en occuper dans une émission à venir.
Une autre conséquence importante du VIH et du sida est sa transmission aux partenaires mariés qui ont été fidèles, mais qui, malgré tout, ont été infectés par le sida, sans que cela soit de leur faute. De même, de nombreuses mères souffrent parce qu'elles savent qu'elles transmettront cette maladie à leurs nourrissons.
Et lorsque le statut de séropositivité est confirmé sur une personne, quelle que soit l'origine de l'infection ou le moyen de transmission, elle peut faire l'expérience d'un certain isolement dans sa vie quotidienne, à cause de la stigmatisation et de la discrimination liée au sida. Dans certains pays, on entend même parler de gens qui ont été officiellement punis parce qu'ils sont atteints du VIH.
La peur de porter l'étiquette du VIH conduit certains à ne pas vouloir savoir s'ils en sont atteints ou non. Ils préfèrent rester dans l'ignorance. Certaines personnes séropositives se voient refuser des traitements médicaux à cause de leurs conditions. De nombreuses femmes qui sont positives au VIH ne savent même pas qu'elles sont infectées par la maladie.
De plus, selon le dernier rapport des Nations Unies sur le sida, les malades peuvent être attaqués physiquement, être ridiculisés, harcelés et même perdre leur maison. Ces problèmes rendent la situation encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Et ils rendent moins efficace tout travail de lutte et de prévention contre le VIH et le sida.
C'est ainsi que notre introduction aux questions liées au VIH et au sida se termine. Lors des prochaines émissions, nous les aborderons en plus de détails et à la lumière de l'enseignement de la Bible. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.